Le politique ou de la royauté? Le politique. Interlocuteur, Socrate, Théodore, l'étranger, le jeune Socrate. Socrate. En vérité, je te dois beaucoup de remerciements, Théodore, pour m'avoir fait faire la connaissance de tes têtes ainsi que celle de l'étranger. Théodore. Tu m'en devras peut-être 3 fois autant, Socrate, quand ils t'auront défini le politique et le philosophe. Socrate. Oui, mais mon cher Théodore, est-ce bien là le langage d'un homme si habile dans les calculs et la géométrie? Théodore. Comment, Socrate? Socrate. Quoi, mettre sur les mêmes rangs 2 hommes entre lesquels il y a une différence de mérite au-dessus de toutes les proportions de votre art? Théodore. À merveille, par notre dieu Amon. Tu as bien raison de m'y faire penser, Socrate, et de me reprocher cette erreur de calcul. Je te le revaudrai une autre fois. Pour toi, étranger, ne te lasse pas de nous obliger. Continue, et soit que tu préfères parler d'abord du politique ou du philosophe, choisis et poursuis ton discours. L'étranger. C'est ce qu'il faut faire, Théodore, puisque nous avons une fois commencé, il ne faut plus nous arrêter que nous ne soyons arrivés à la fin. Mais tes têtes que voici, que faut-il que j'en fasse ? Théodore. Que veux-tu dire ? L'étranger. Ne le laisserons-nous pas respirer en prenant à sa place ce jeune Socrate, son compagnon dans tous ses exercices ? Qu'en penses-tu ? Théodore. Prends-le à sa place comme tu le dis. Ils sont jeunes et ils peuvent supporter toute espèce de travail pourvu qu'on les laisse se reposer de temps en temps. Socrate. D'ailleurs, ô étranger, il me semble qu'il y ait entre eux et moi une sorte de lien de famille. L'un me ressemble, dites-vous, par les traits du visage. Et quant à l'autre, la communauté de noms établit entre nous une espèce de parenté. Or, on doit toujours être jaloux d'apprendre à connaître ses parents en conversant ensemble. Je suis déjà entré moi-même hier en conversation avec tes têtes, et je viens de l'entendre te répondre. Mais pour Socrate, je ne le connais ni de l'une ni de l'autre manière. Il faut cependant l'éprouver à son tour, il aura affaire à moi une autre fois, pour aujourd'hui, qu'il te réponde. L'étranger. Soit, eh bien Socrate, entends-tu Socrate ? Le jeune Socrate, oui. L'étranger, et consens-tu à ce qu'il dit ? Le jeune Socrate, de tout mon cœur. L'étranger, il ne paraît pas qu'il y ait d'empêchement de la part, et il sierait encore moins qu'il y en ait de la mienne. Voyons donc, après le sophiste, il nous faut, ce me semble, chercher le politique. Et dis-moi, devons-nous aussi le considérer comme un homme de science ou autrement ? Comme un homme de science ? Il faut donc diviser les sciences comme lorsque nous nous occupions du premier. Peut-être bien, mais Socrate, il me semble qu'ici la division ne doit plus être la même. Non, sans doute, il en faut une autre. À ce qu'il semble. On doit donc trouver la route de la science politique. Il faut découvrir cette route et après l'avoir séparée des autres, lui donner pour enseigne une seule et unique idée. Puis désigner encore sous une seule et unique idée toutes les directions qui s'écartent de celle-là. Amener notre esprit à concevoir toutes les sciences comme formant 2 espèces. C'est, je crois, ton affaire, étranger, non la mienne. Il faut cependant, Socrate, que ce soit aussi la tienne quand nous serons parvenus à y voir clair. Tu as raison. Eh bien donc, l'arithmétique et quelques autres sciences de la même famille ne sont-elles pas étrangères à la pratique et ne se bornent-elles pas à la pure connaissance? Cela est vrai. Au contraire, l'art de bâtir et tous les arts manuels possèdent une science qui a, pour ainsi dire, sa racine dans la pratique, et ils produisent des choses qui leur doivent l'existence et qui n'étaient pas auparavant. Comment le nier ? Divise donc par là toutes les sciences, en nommant les unes sciences pratiques et les autres sciences spéculatives. Que ce soit donc là comme 2 divisions de la science, une dans sa généralité. Maintenant, le politique, le roi, le maître d'esclaves et même le chef de famille. Considérons-nous tout cela comme une seule et même chose ? Ou dirons-nous qu'il y a là autant d'arts que nous avons prononcé le nom ? Ou plutôt, suis-moi de ce côté. Par où ? Par ici. Supposons un homme capable de donner des conseils à un de ceux qui font profession publique de la médecine, quoique simple particulier lui-même. Ne devra-t-on pas le nommer du nom de cet art tout autant que celui qu'il conseille ? Oui ? Mais dis-moi, celui qui est capable, tout simple citoyen qu'il est, de guider de ses avis le roi d'un pays, ne dirons-nous pas qu'il possède la science que le chef lui-même devrait posséder ? Nous le dirons. Or, la science d'un véritable roi est une science royale.
Oui,
et celui qui la possède, chef ou particulier, ne méritera-t-il pas tout à fait d'être appelé royal du nom de cette science?
Cela est juste.
Et le chef de famille et le maître d'esclaves, c'est la même chose.
Certainement.
Et dis-moi, entre une grande maison et une petite ville, y a-t-il quelque différence pour le gouvernement?
Aucune.
Ainsi, nous voyons clairement ce que nous examinions à l'instant même. C'est qu'il n'y a qu'une seule science pour tout cela. Maintenant qu'on l'appelle royal, politique, économique, ne disputons pas sur le mot.
À quoi cela servirait-il?
Une autre chose évidente, c'est que pour un roi, les mains et tout le reste du corps ne servent que fort peu à conserver le commandement en comparaison de l'intelligence et de la force de l'âme.
Il est vrai.
Veux-tu donc que nous disions que la science royale se rapproche plus de la spéculation que des arts manuels et de la pratique en général?
Sans doute.
Enfin, le politique est la science du politique. Le roi est la science du roi. Tout cela, nous le réunirons ensemble comme une seule et même chose.
Évidemment.
Le premier pas que nous avons à faire après cela, n'est-ce pas de diviser la science spéculative?
Oui.
Fais donc attention si nous ne découvrons pas quelques solutions de continuité.
Laquelle?
Nous avons dit que le calcul est une science.
Oui,
et nous le plaçons, je pense, parmi les sciences spéculatives.
Le moyen du contraire?
Le calcul ayant pour objet la connaissance de la différence dans les nombres, lui attribuerons-nous encore une autre fonction que de prononcer sur ce qu'il doit connaître?
Comment le pourrions-nous?
Un architecte ne travaille pas lui-même, mais il commande aux ouvriers.
Oui?
Il prête sa science et non son bras,
comme tu le dis.
Il serait donc vrai de dire que la science de l'architecte est une science spéculative.
Tout à fait.
Mais lorsqu'il a porté son jugement, il ne lui sied pas, je pense, de s'en tenir là et de se retirer comme faisait le calculateur. Il faut encore qu'il commande à chacun des ouvriers ce qui est convenable, jusqu'à ce que ses ordres aient été accomplis.
C'est juste.
N'en résulte-t-il pas que si toutes les sciences de cette sorte sont spéculatives, comme celles qui dépendent du calcul, il y a là cependant deux espèces de sciences qui diffèrent en ce que les unes jugent et les autres commandent?
Accordé.
Si donc nous divisons la totalité de la science spéculative en deux parties, et que nous nommons l'une science de commandement et l'autre science de jugement, nous pourrons dire que nous l'avons convenablement divisée.
Oui, selon moi.
Mais il doit suffire à ceux qui font quelque chose en commun d'être du même avis.
Nécessairement.
Eh bien, tant que nous serons tous deux d'accord, laissons là, sans en prendre souci, les opinions des autres.
Soit.
Dis-moi, dans laquelle de ces deux classes nous devons ranger le roi? Dans celle du jugement comme un simple théoricien? Ou ne le regarderons-nous pas plutôt comme appartenant à l'art du commandement, puisqu'il exerce un empire?
Comment ne pas préférer ce dernier parti?
Mais il faut voir si l'art du commandement n'est pas à son tour susceptible d'une division. Il l'est, ce me semble, par cet endroit. Il y a entre l'espèce des rois et celle des héros la même différence qu'entre le métier du simple revendeur et celui du marchand-fabricant.
Comment?
Les revendeurs, après s'être procuré les produits des autres qu'on leur vend d'abord à eux-mêmes, les vendent une seconde fois.
Oui, vraiment.
Ainsi, les héros obéissent d'abord, et c'est après avoir reçu les pensées d'un autre qu'ils commandent à d'autres à leur tour et en second lieu.
Cela est très vrai.
Quoi donc? Confondrons-nous donc la science du roi avec celle de l'interprète, de l'ordinateur, du divin, du héros et tant d'autres de la même famille qui toutes se rapportent au commandement? Ou bien veux-tu que les ressemblances que nous venons d'apercevoir nous les représentions dans un nom nouveau, puisqu'il n'y a pas, ce semble, de nom pour désigner la classe de ceux qui commandent d'eux-mêmes? Veux-tu que nous fassions cette nouvelle division? Que nous rapportions l'espèce des rois à la classe de ceux qui commandent d'eux-mêmes sans nous occuper davantage de tout le reste? Laissant à qui le voudra le soin de donner à chacune de ces choses un nom différent? Car l'objet de nos recherches, c'est celui qui gouverne et non pas son contraire.
Sans aucun doute.
Maintenant donc que voilà cette classe convenablement distinguée des autres et que ce qui lui est étranger a été séparé de ce qui lui est propre. N'est-il pas nécessaire de la diviser à son tour si elle se prête par quelque droit à cette opération?
Certainement.
Et il me semble que nous avons un tel endroit. Mais suis-moi bien et divise avec moi.
Comment?
Imaginons tous les chefs qu'il nous plaira dans l'exercice du commandement.
Ne trouverons-nous pas que s'il commande, c'est pour que quelque chose vienne à l'être?
Sans doute.
Et il est nullement difficile de partager en deux espèces tout ce qui vient à l'être.
Comment?
Tout ce qui vient au monde est ou animé ou inanimé.
Oui.
Eh bien, si nous voulons diviser cette partie de la science spéculative qui a pour objet le commandement, c'est de cette manière que nous la diviserons.
De quelle manière?
En préposant une de ces espèces à la production des êtres inanimés et une autre à celle des êtres animés. Ainsi, le tout se trouvera divisé en deux.
À la bonne heure.
Maintenant, de ces deux parties, laissons l'une, prenons l'autre et partageons en deux ce nouveau tout.
Laquelle des deux dis-tu qu'il faut prendre?
Nécessairement celle qui commande aux êtres animés, car la science royale ne règne pas, comme l'architecture, sur des choses sans vie. Elle est plus relevée, elle s'occupe des êtres animés, c'est là qu'est son empire.
Bien.
Or, dans la production et l'éducation des êtres animés, on peut distinguer d'abord l'éducation individuelle, puis l'éducation commune pour ceux qui vivent en troupeau.
Soit.
Mais nous ne trouverons pas le politique livré à l'éducation d'un individu, comme celui qui n'élève qu'un bœuf ou un cheval. Nous le trouverons plutôt semblable à un bouvier ou à un chef de harin.
Je le vois maintenant que tu viens de le dire.
Mais cette partie de l'art d'élever les êtres animés, qui consiste à en nourrir un grand nombre réunis ensemble, comment la nommerons-nous? Éducation des troupeaux ou éducation commune?
Indifféremment, suivant le mot qui se présentera dans le discours.
Très bien, Socrate. Si tu te gardes de t'inquiéter trop des mots, tu en seras plus riche en sagesse dans tes vieux jours. Il s'agit maintenant de faire ce que tu conseilles. Imagines-tu comment, après avoir montré que l'art d'élever les troupeaux à deux parties, on pourrait faire ce qu'on cherchait tout à l'heure dans les deux moitiés confondues, on le cherche maintenant dans l'une d'elles seulement?
J'y ferai de mon mieux. Il me semble à moi qu'il y a d'un côté l'éducation des hommes et de l'autre celle des bêtes.
Voilà qui est promptement et hardiment divisé. Cependant, prenons garde autant que possible que cela ne nous arrive une seconde fois.
Quoi?
Ne détachons pas une petite partie pour opposer à d'autres grandes et nombreuses, et que ce ne soit pas une simple partie au lieu d'une espèce, mais que la partie soit une espèce en même temps. C'est une très belle chose de séparer sur le champ de tout le reste ce qu'on cherche. Si l'on rencontre juste comme toi tout à l'heure, qui pensant tenir la vraie division, t'es empressé de décider quand tu as vu que le discours allait droit aux hommes. Cependant, il n'est pas sûr, mon cher, de passer tout d'abord au plus menu. Il l'est davantage de s'en aller, divisant successivement par moitié. On trouve mieux ainsi les espèces. Or, c'est là ce qui importe par-dessus tout, en toute recherche.
Comment dis-tu cela, étranger?
Il faut essayer de m'expliquer encore plus clairement, pour l'amour de toi, Socrate. Quand à présent il est impossible de te donner sur ce point une démonstration complète, il faut tâcher d'aller encore un peu plus en avant pour l'éclaircir.
Qu'est-ce donc que tu trouves à reprendre dans notre division de tout à l'heure?
C'est que nous avons fait comme celui qui, voulant diviser en deux parts le genre humain, ferait sa division à la manière de la plupart de vos Athéniens, qui distinguent les Grecs de toutes les autres nations, comme formant une race à part, et puis appellent toutes ces autres nations infinies en nombre, sans rapport entre elles, d'un seul et même nom, les barbares, s'imaginant à cause de cette communauté de noms qu'elles ne forment véritablement qu'une seule et même race. Ou bien encore, nous faisons comme celui qui croirait bien diviser le nombre en deux espèces, en mettant à part 10 000 comme une espèce, et en donnant à tout le reste un seul nom, dans la persuasion qu'à cause de ce nom, il y a réellement une seconde espèce différente de l'autre. Mais ne ferait-on pas plus sagement, et ne diviserait-on pas mieux par espèce et par moitié, si l'on partageait le nombre en pair et impair, la race humaine en mâle et femelle, et si on en venait à opposer les Lydiens, les Phrygiens ou quelque autre peuple à tous les autres, que lorsqu'on ne verrait plus moyen de diviser par espèce et par partie tout à la fois?
Parfaitement. Mais cette espèce même et cette partie étrangère, comment reconnaître clairement qu'elles ne sont pas une même chose, mais qu'elles diffèrent l'une de l'autre?
Oh, le meilleur des hommes, ce n'est pas peu de choses que ce que tu me demandes là, Socrate. Mais nous nous sommes déjà par trop écartés de la question. Et toi, tu veux que nous nous éloignions encore davantage? Revenons sur nos pas, il en est temps. Une autre fois, dans un moment de loisir, nous suivrons plus loin ces traces. En attendant, garde-toi bien d'aller jamais t'imaginer m'avoir entendu expliquer ceci clairement.
Quoi donc?
Que l'espèce et la partie sont deux choses différentes.
Comment?
L'espèce est nécessairement une partie de ce dont on dit qu'elle est une espèce, tandis qu'il n'est nullement nécessaire que la partie soit espèce en même temps. N'oublie jamais, Socrate, que je cherche à diviser de cette manière plutôt que de l'autre. Je ne l'oublierai pas.